La semaine passée, j'avais commencé à parler d'Ézéchiel en tant que signe. En tant que signe, puis ce que ça nous montrait à nous-mêmes, c'est que nous-mêmes aussi, on doit être un signe dans cette génération rempli de l'Esprit, rempli de la parole de Dieu, conduit par l'Esprit, envoyé, qui vit le message sous les yeux de ce monde, sous les yeux des gens qui l'entourent. Ça, c'était le message de la semaine passée. Aujourd'hui, je veux continuer sur Ézéchiel un petit peu, sur la gloire de Dieu dans Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un livre qu'on ne lit pas souvent, mais c'est un livre qui parle beaucoup de la gloire de Dieu. Il parle énormément de la gloire de Dieu. Puis, quand on regarde ça, Ézéchiel a eu plusieurs apparitions de la gloire de Dieu. Plusieurs apparitions de la gloire de Dieu. Puis, tout le premier chapitre d'Ézéchiel, c'est juste une description de la vision qu'il y a eu de la gloire de Dieu. Puis, quand je regarde ça, je vais juste essayer de vous le dire un peu en mes propres mots, là. Qu'est-ce qu'il a vu, lui? C'est comme un chariot avec quatre roues, avec quatre êtres fantastiques qui étaient les chérubins. Puis, il a entrevu un trône sur le dessus avec une figure d'homme qui avait un aspect du feu puis une splendeur tout autour, avec comme un ciel au-dessus puis un arc-en-ciel, puis l'esprit qui animait le tout. Ça ressemble un petit peu à ce que Jean a vécu dans l'Apocalypse. Jean aussi a vu la gloire de Dieu. Puis dans Ézéchiel, cette gloire de Dieu-là l'a saisi plusieurs fois, puis l'a amené à faire certaines choses qu'on a parlé la semaine passée pour transmettre le message. Puis qu'est-ce qu'il dit, Ézéchiel? Il dit, c'était une image de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il dit, c'était une image de la gloire de Dieu. À cette vue, je tombais sur ma face. Ben, ça ne peut pas faire autrement. Hein? Il a tombé sur sa face, puis ça lui a pris 7 jours pour s'en remettre. Tellement que qu'est-ce qu'il a vu, ça l'a marqué. Ça l'a marqué son message. Puis ça l'a amené vraiment à vraiment manifester la présence de Dieu autour de lui. Dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu, il appelait ça la Shekinah. Ce terme-là, ça veut dire c'est une manifestation visible de la présence de Dieu dans laquelle Dieu descendait parmi les hommes pour les conduire, pour habiter aussi mieux. T'sais, des fois, c'est une lumière. Des fois, c'était le feu. Des fois, c'était la nuée dans le tabernacle, la nuée qui était en arrière du peuple d'Israël et qui marchait en avant d'eux autres. Ils voyaient la manifestation visible de Dieu au milieu d'eux. Amen? Puis, je viens de parler tantôt qu'on a besoin de voir la manifestation visible de l'Esprit de Dieu au milieu de nous, à travers l'action des croyants. Parce qu'on n'est pas sauvé juste pour nous-mêmes, mais on est sauvé pour tout le corps de Christ, puis pour les non-croyants aussi. On voit ça dans l'Ancien Testament, le plus dans 1 Roi 8, le verset 10 à 13, ça dit, « Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée emplit la maison de l'Éternel, puis les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. » Alors Salomon dit, « L'Éternel veut habiter dans l'obscurité, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. » Ça, c'était sa prière. Mais Dieu n'a pas résidé là éternellement parce qu'on voit que dans Ézéchiel, la gloire va s'en aller. La gloire va s'en aller. Mais Dieu voulait habiter là. Puis Dieu habitait, eux, ils avaient bâti l'Arche de l'Alliance avec le propriétatoire. Là, que, puis par-dessus le propriétatoire, il y avait les deux chérubins, un de chaque côté. Puis Dieu dit, dans la nuit, il se tenait toujours là pour regarder. Et quand le sang couvrait le propriétatoire, Dieu était satisfait. C'était comme ça que ça fonctionnait dans le temple de Salomon. Nous, la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu, dans le Nouveau Testament, la manifestation visible de l'Éternel, à se manifester en Jésus-Christ. Amen. Ça dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. La manifestation visible de la gloire de Dieu, elle a habité en Jésus-Christ. Il y a un autre verset qui nous parle de ça. Ça dit, pour les adultes dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la gloire, non, la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Amen. Elle est là, la gloire de Dieu. J'ai sorti juste un autre petit verset, ça dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante. On est des pierres vivantes ce matin. C'est pour ça que des fois, on a la tête dure un peu, moi, en tout cas. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Dans le temple de Salomon, là où la gloire de Dieu résidait, la gloire de Dieu était là. Mais nous, dans le Nouveau Testament, c'est un temple spirituel fait par chacun de nous qui sommes une pierre vivante. On est un temple spirituel. Amen. Où la gloire de Dieu doit résider, où on doit voir la manifestation visible de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, on peut dire ce matin que les croyants, on est une manifestation parce qu'on est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit réside dans nos cœurs. Jésus, c'est notre sauveur. On est un petit temple, chacun de nous. Amen. Donc, on peut dire on est la Shekinah de Dieu. On peut dire qu'on est une manifestation visible de la présence de Dieu parmi les hommes. Amen. Dites à votre voisin ce matin, tu es une manifestation visible de la gloire de Dieu. Fait qu'après y avoir dit ça, il va rester tranquille. Mais revenons à Ézéchiel. Pourquoi Ézéchiel a-t-il vu la gloire de Dieu? Premièrement, c'était pour le fortifier, comme on a vu la semaine passée, pour remplir sa mission, puis pour avertir Israël que la gloire de Dieu allait se retirer dans Ézéchiel. La gloire de Dieu allait se retirer du temple et que Jérusalem serait abandonnée. C'est pour ça qu'Ézéchiel a été rempli de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, qui était un peuple que Dieu avait toujours voulu rester au milieu d'eux, avait à la longue pris les choses pour acquis. Il avait dit, Dieu est pour nous, c'est correct, puis Dieu pris les choses pour acquis, Dieu, il ne se retirera jamais, il est avec nous autres. Puis là, il disait maintenant, dans Ézéchiel 8:12, le peuple, il disait, vers la fin du verset, il disait, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. C'est ça qu'il disait. Puis c'est un peu ça dans notre société aujourd'hui. On retire Dieu de partout. Il n'y a plus Dieu dans les écoles, il n'y a plus Dieu dans nulle part. On ne veut même plus l'avoir dans les assemblées nationales, on ne veut plus l'avoir dans les... Dieu ne nous voit pas, on peut faire ce qu'on veut. L'Éternel a abandonné le pays. L'Éternel ne nous voit pas. Quand j'étais... Je faisais une petite joke, tu sais, parce que dans Ézéchiel, Dieu va lui demander de percer le mur et de regarder à travers le mur pour voir ce qu'ils faisaient les anciens d'Israël. Puis quand on était jeune, on a regardé les films de western, là, hein? Puis avant de faire un petit vol, là, il regardait à gauche, puis il regardait à droite. Hein? Mais il aurait fallu qu'il regarde en haut. Mais nous autres aussi, des fois, dans nos vies, on regarde à gauche, on regarde à droite, mais c'est vers en haut qu'on devrait regarder. Puis, dans Ézéchiel, Dieu a montré à Ézéchiel que dans le temple, les sacrificateurs étaient retournés tranquillement vers leurs idoles du passé. Tranquillement, ils retournaient. Puis les femmes vénéraient le dieu Tammuz. Le dieu Tammuz, c'était le dieu de la fertilité et de l'amour. Puis aujourd'hui, bien, c'est revenu dans notre société, ils appellent ça les feux de l'amour. Mais Ézéchiel, Dieu a montré à Ézéchiel que Dieu a tout vu cela. Puis que dans le temple de Salomon, la présence de Dieu était là quand même à travers toutes ces choses-là, mais que là, Dieu ne pouvait plus rester là, qu'il allait se retirer tranquillement, qu'il allait se retirer. Dieu a tout vu. Hébreux 12, c'est dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » C'est facile dans notre société de se laisser aller tranquillement, de se laisser aller à certaines choses. Qui nous enveloppe si facilement, dit l'auteur des Hébreux, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, ayant les regards sur Jésus. Amen. Il ne faut pas prendre les yeux sur Jésus jamais, parce que c'est facile de s'en détourner. Le peuple d'Israël s'en est détourné peu à peu, sans même s'en apercevoir. Puis des fois, ça peut être la même chose dans nos vies. On peut marcher avec le Seigneur et ouf, sans s'en apercevoir vraiment. Puis ici, on voit que dans Ézéchiel, si jamais vous lisez le livre d'Ézéchiel, la gloire de Dieu s'en va, tranquillement. Ça dit dans Ézéchiel 8:4, ça dit, « Oh, la gloire n'était plus sur le temple, mais était rendue à la porte intérieure. » Un petit peu plus loin, la gloire était rendue sur le seuil du temple. Un petit peu plus loin, la gloire était rendue sur les chérubins qu'on a vus tantôt sur le chariot. Puis, un petit peu plus loin, elle était rendue dans la vallée du Cédron, puis elle s'en allait vers le mont des Oliviers. Est-ce qu'il restait une espérance pour le peuple d'Israël? Est-ce qu'il restait une espérance? Il y a toujours une espérance. Amen. Ézéchiel 9:4, ça dit, « L'Éternel leur dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, » Fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Il restait un petit résidu, qu'on appelle ça ou un reste, mais j'aime pas ces deux termes-là, moi, parce que les restes, chez nous, puis les résidus, c'est pareil, là. Mais il restait un petit troupeau qui aimait Dieu et qui voulait rester fidèle. Amen. Un petit troupeau. Et toujours, dans l'histoire de l'Église, il y a toujours eu un petit troupeau qui a été fidèle à l'œuvre de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, on fait partie de ce petit troupeau qui est fidèle dans l'œuvre de Dieu et qui veut continuer à servir le Seigneur malgré notre société qui veut s'en éloigner. Amen. Ça ressemble beaucoup à Apocalypse 7:3 quand le Seigneur il va dire qu'il met un sceau sur tous ceux qui lui appartiennent. Le livre d'Ézéchiel avec le livre de l'Apocalypse, c'est vraiment beaucoup, les visions se ressemblent énormément un à l'autre. 2 Timothée 2:19, ça dit, « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. » Amen. Dans le peuple d'Israël, il restait un petit nombre de personnes. Dieu a mis son sceau sur eux parce qu'il connaissait ceux qui lui appartiennent. Même au travers de toute la population d'Israël, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Et dans notre société aujourd'hui, même si on est un petit nombre, Dieu veut mettre son sceau sur la vie de chacun de nous parce que Dieu nous connaît. Il sait ceux qui lui appartiennent. Mais ici, la gloire était partie. Il ne voyait plus la gloire de Dieu dans le sanctuaire. Quelle espérance pour eux! Quelle espérance! Mais si le livre d'Ézéchiel arrêterait là, ce ne serait pas un livre de la gloire de Dieu. Ce ne serait pas un livre où la gloire de Dieu serait manifestée. Mais dans la parole de Dieu, il y a toujours une espérance. Dieu a toujours un plan B. Dieu veut toujours bénir son peuple. Dieu n'arrêtera jamais de vouloir relever, restaurer, de vouloir faire une œuvre. Dieu n'arrêtera jamais. Puis là, Ézéchiel va commencer à dire ce plan-là. Parce que le mot Ézéchiel veut dire « Dieu fortifiera ». Et Dieu va les fortifier en leur annonçant ce que Dieu va faire dans leur vie. Oui, il va leur dire « Il va y avoir restauration ». Oui, il va leur dire « Il va y avoir un avenir ». Il va leur dire, dans Ézéchiel 34, au verset 15, il va leur dire « Vous allez avoir, dorénavant, il va venir un jour où vous allez avoir un nouveau berger ». Il va leur dire, « C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui était blessée et je fortifierai celle qui est malade. » Amen. Quelle promesse de Dieu pour son peuple d'Israël. Amen. Et c'est ce berger, et c'est ce pasteur-là qu'on a dans nos vies aujourd'hui. Amen. C'est ça que Jésus veut faire dans nos vies. Il veut faire paître ses brebis. Il veut les faire reposer. Il veut chercher celle qui est perdue. Il veut ramener celle qui est égarée. Il veut panser celle qui est blessée. Fortifier celle qui est malade. Ça ressemble beaucoup à la parabole de Luc 15, de la brebis perdue. Un nouveau berger. Un nouveau berger. Et il va leur dire aussi, dans Ézéchiel 36, il va le dire, « Un jour va venir où je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de chair et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. » Quelle promesse! Amen. Quelle promesse! C'est vraiment le salut par grâce. Le salut par grâce, le don du Saint-Esprit, la marche à la gloire de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous, en Jésus-Christ, on peut manifester cette vie de nouveauté de vie. Un cœur nouveau, un esprit, un cœur de chair. Quelle promesse! Et après ça, il va venir et il va leur prophétiser la vallée des ossements. La vallée des ossements, ça représente pour le peuple d'Israël que le peuple était mort, que tout était fini, que tout était fini pour eux. Il va leur promettre une restauration nationale. Au verset 3, il va dire, « Ses os pourront-ils revivre? Ses os pourront-ils revivre? » Ézéchiel va dire, « Tu le sais, Seigneur, tu le sais. » Puis au verset 7, ça va dire, « Il y eut un bruit, voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. » Il n'y a pas une situation dans nos vies que Dieu ne peut pas faire une œuvre. S'il est capable de le faire pour le peuple d'Israël, il est capable de le faire pour chacune de nos vies. Il y eut un bruit et les os se rapprochèrent. Pour le peuple d'Israël, qu'est-ce que ça représente? Ça représente que en 1882, ils ont commencé à revenir dans le pays d'Israël. En 1905, il était juste 95 000 dans le peuple d'Israël. Mais Dieu a commencé à susciter dans leur esprit de retourner vers leur pays, parce que ça le dit dans Ézéchiel, Dieu dit, je vous ramènerai, je vous rassemblerai, je ferai de vous un peuple, je ferai de vous une nation. C'est tout dans le chapitre Ézéchiel 36. Puis, en 1917, il va y avoir une déclaration pour le fondement d'un État juif. Et en 1948, cet État juif va voir le jour, même si beaucoup étaient contre cela. Mais personne ne peut venir contre la volonté de Dieu. Ce que Dieu a promis, accompli. Au verset 8, ça dit, « Il vint sur eux des nerfs et de la chair. Avant, il y avait tous des kibboutz séparés, mais ils ont commencé à s'organiser comme nation, comme peuple. La peau les couvrit. Ça nous dit un petit peu plus loin. J'ai prophétisé selon l'ordre qui m'avait été donné. Non, c'est pas, je n'ai pas assez tout droit. OK. Et la peau les couvrit. Ça a été la création d'un État juif en 1948. Et après ça, il va leur prophétiser, et l'Esprit, en entrant en eux, ils reprirent vie. Les trois premiers qu'on a vus, ils sont en train de s'accomplir. Ils sont déjà en train de s'accomplir, mais le quatrième, l'Esprit entrant en eux, ce n'est pas encore fait. La plupart des Juifs ne reconnaissent pas encore Jésus-Christ. Il y a un réveil politique en Israël qui est en cours, mais le réveil spirituel, ça va être juste après l'enlèvement de l'Église, où ils vont crier à Dieu, où il va se convertir, puis Dieu pourra répandre son esprit. La vallée des ossements. Et lorsqu'ils vont se convertir, Dieu va leur redonner un nouveau temple, un nouveau culte. Et la gloire qui était partie par la porte est du sanctuaire va revenir habiter dans le temple. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. La gloire de l'Éternel va revenir parmi eux. Et Dieu va leur dire, « Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Après ça, je pense que je ne l'ai pas marqué. Après ça, le chapitre 47, il y avait le sanctuaire, le nouveau culte, puis il va commencer à sortir de l'eau du sanctuaire. Puis c'est tout un, c'est, chacune de ces parties-là mériterait une prédication en entier. Il va sortir de l'eau du sanctuaire, puis qu'est-ce que ça représente? Ça représente la grâce et l'amour du cœur de Dieu qui se répand en bénédiction toujours plus vaste et plus profonde pour les siens et pour le monde. Amen. Quand les gens reviennent au Seigneur, la grâce se manifeste. La grâce, elle coule, ça bénit. Amen. Si vous êtes rempli de Dieu, si vous êtes béni de Dieu, la grâce, elle va se manifester. Elle va couler autour de vous. Et dans le même chapitre 47-là, il dit que les arbres sur le long de cette rivière de grâce, elle fleurissait et elle produisait des fruits. Et leurs feuilles produisaient la guérison. C'est exactement, pratiquement, la même vision que Jean a eue dans l'Apocalypse. Dans Apocalypse 22, où il disait, « Il me montra un fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place et de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient la guérison des nations. » Amen, c'est merveilleux. Les eaux du sanctuaire. Et il va terminer en disant, Ézéchiel 48, il va dire, « Et dès ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici. » « Jéhovah Shammah. » Amen. Et quand je regarde, tout ça, ça a une signification aussi spirituelle pour chacun de nous. Il y a des temps où on peut penser dans la vallée des ossements aussi. On peut penser que tout est mort dans nos propres vies, qu'il n'y a plus rien à faire. Mais on peut revenir à Dieu de tout notre cœur, amen. Il peut nous redonner un nouveau pasteur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il peut refaire une œuvre dans nos cœurs, amen. Il peut refaire une œuvre. Les mêmes étapes qu'on a vues tantôt ici. Le nouveau berger, un nouveau cœur. Un nouveau culte. Et la gloire peut revenir dans chacune de nos vies. Amen. Et le fleuve de grâce peut couler dans notre vie et bénir autour de nous. Amen. C'est cela que Dieu peut faire dans chacune de nos vies. C'est spirituel. Et je vais demander ce matin aux musiciens de s'avancer et de venir nous conduire dans un chant. Et ce matin, moi je crois que c'est un temps pour venir dans la présence de Dieu. De venir goûter à la gloire de Dieu. De venir goûter à sa grâce. Et de venir, on disait tantôt que c'est la journée de la Pentecôte, de venir prendre un temps dans sa présence au pied de l'autel et de lui demander de nous remplir, de faire une œuvre dans nos vies. On a besoin de sa gloire. On a besoin de la manifestation visible de sa présence. On a besoin de cela dans nos vies, afin que ceux qui nous entourent voient la gloire de Dieu dans nos vies. Pour sa gloire, pour son honneur.